Alors, Pierre-Yves, qui sont les acheteurs immobiliers à Montréal?
Oui, la Société canadienne d'hypothèques et de logements nous dit, tu sais, pour connaître le marché immobilier, pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on doit acheter, qui achète, bon, on va vous donner une étude dans le fond. Donc, qui achète à Montréal? Bon, 80% des acheteurs à Montréal, ce sont des gens qui habitent à Montréal. Donc, quand vous achetez à Montréal, c'est que logiquement, vous aviez déjà habité, vous connaissez l'énergie, le prix, vous êtes conscient dans quoi vous vivez, tu sais. Il y a aussi les quartiers qui attire les gens de l'extérieur. Donc, les trois quartiers, c'est le plateau, évidemment, probablement qu'on parle de la France. Il y a l'île des Sœurs, parce que c'est vraiment la banlieue en ville. Et finalement, Ville-Marie, parce que c'est le centre-ville, donc c'est accessible au travail. Griffintown attire beaucoup de la banlieue. 25% proviennent de la banlieue, ce qui est assez logique parce que c'est très près, au bord du pont. Et deuxième point, c'est que quand tu veux t'acheter quelque chose de neuf trop cher, tu vas à Griffintown. Le bilan migratoire aussi nous parle. 30% des acheteurs d'unifamiliales proviennent de Montréal. Donc, à Laval, par exemple, proviennent de Montréal. Et c'est logique, tu sais. Tu veux t'acheter une maison à Montréal, tu fais des enfants, tu te dis, tiens, on va s'acheter une maison, tu t'en vas à la banque, tu t'en vas visiter, puis tu te dis, finalement, c'est beau, Laval. Mais là, tu changes de pont parce que c'est trop cher. Et un ami me faisait remarquer récemment, l'arbitrage, c'est-à-dire la différence de prix entre Montréal et la banlieue, est rendu de plus en plus grand. Tu sais, tu t'en vas, par exemple, à Lanaudière, Repentigny, tu traverses sur l'île, tu t'en vas un quartier central. C'est d'aucune commune mesure. C'est plus juste le prix de la voiture puis du trafic, là. On peut parler de 200-300 000 des fois de différence pour la même maison et plus petit. Aussi, parlons condos. Qui achète des condos? Évidemment, ce sont les jeunes acheteurs, les premiers acheteurs en majorité. Mais dans des quartiers comme Anjou, Saint-Léonard, l'Île-des-Sœurs, c'est des gens de 55 ans et plus. Donc, il y a un lien avec ça. Évidemment, la quasi-totalité des secteurs du Grand Montréal, 40% des acheteurs à 50% sont des personnes vivant seules ou des couples. Parce que dès que tu as des enfants, tu veux garder de l'espace pour avoir la paix. Mmh. Je sais de quoi je parle. Évidemment, il y a Outremont qui est différent parce que 45% des acheteurs sont des familles. Pourquoi? Mais parce que c'est tellement cher à Outremont.
Faut être deux pour payer.
Faut être deux pour payer et trois et quatre. Et les appartements sont grands. Hein, si on veut une place où on peut avoir encore un 7,5, c'est à Outremont. Le seul problème, c'est qu'il est 800 000. Mais malgré tout, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir à quel point il y a un lien entre le quartier, les habitudes de consommation et la vie des gens. Et on peut dire aussi qu'à Montréal, 55% des ménages ont un revenu supérieur à 100 000. Donc, 107 000 $
Mais c'est sûr que le prix d'acquisition, là,
pas le choix.
C'est élevé, là.
C'est élevé. Il faut s'endetter. Hein. S'acheter à Montréal, il faut que tu te dises, hey, il faut que j'aime ça, tu sais, parce que c'est vraiment cher.
Ou c'est le retour. Tu as dit que tu habité en banlieue, tu vends ta maison, puis là, tu décides de.
Par exemple. Je connais des gens qui font ça et c'est une bonne idée quand même. C'est moins de trafic.
T'sais. Entre autres.
Ça permet d'étirer la carrière parfois, d'avoir une plus belle carrière possible.
Bon, on va parler de M. Trump. Et là, on a vu ce matin l'Union européenne là, qui impose des sanctions, entre autres sur les motos, sur le bourbon et d'autres produits en réponse aux tarifs sur l'aluminium et l'acier.
C'est fou, hein. Donald Trump est comme dans la simplicité de la gestion. J'appelle ça Trump et c'est Trumpitude parce que la Chine puis Trump, OK, pour prendre l'expression populaire, ce sont deux nations qui se tiennent mutuellement par les couilles. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui menace l'autre de couper ses importations, mais l'autre dit, hey, attention, Donald, on a ta dette américaine, là, étrangère, possédée par des étrangers. C'est nous autres. T'sais, on a environ là, près de 1200 milliards de dollars américains en dette à l'étranger, en bons du trésor. Si tu veux. Donc, si t'es la Chine, tu peux dire aux États-Unis, « Hey, vous pouvez partir d'une guerre commerciale. On peut commencer à chicaner. Mais si on commence à liquider nos placements, ça va être mauvais pour votre économie. Si c'est mauvais pour votre économie, vous avez des problèmes. Nous, ça nous nuit parce que vous importez moins. Donc, on se tire dans le pied. » Et la patente du bilan me fait un peu rire parce que le bilan commercial, Donald Trump dit, « On achète plus de la Chine que la Chine achète de nous. » C'est normal. C'est ça l'arbitrage mondial. C'est ça la théorie des avantages comparatifs. Si on se paye encore des chandails à 10$ aujourd'hui en 2018, alors qu'on payait le même prix en 86, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on profite de l'arbitrage mondial, mais il y a un prix à ça, c'est-à-dire ne plus acheter local. Tu sais, j'ai démoli ma maison il y a quelques années, puis chaque chose que je démolissais, c'était « Made in Canada ». Aujourd'hui, si je démolissais une maison, tout était « Made in Canada », ça serait une maison de multimillionnaire. Donc, on a changé notre économie. Et il y a aussi toutes les entreprises qui sont intégrées. Par exemple, une entreprise américaine qui a une filiale au Canada, un fournisseur au Canada, parfaitement intégré, met en place des usines pour 25 ans, commence à produire avec l'accord de libre-échange en tête. Puis, tu as ton président qui dit « Moi, je vais faire mon point facile, là. Je vais dire qu'on devrait juste acheter américain et que les autres pays nous exploitent. Puis je vais partir d'une guerre commerciale. » Mais c'est extrêmement simpliste. Tu sais, quand tu parles à l'université de ça, de la menace politique et des enjeux politiques mondiaux, tu t'attends jamais à ce que le président américain commence à faire le despote. Et c'est ça qu'on vit. Et tout le monde en rit maintenant parce que c'est rendu tellement gros on se dit, coudonc, il y a bien quelqu'un chez les républicains qui va lui dire à un moment donné, ben, ça n'a aucun sens.
Il y a quand même, dans les États qui sont directement visés par les mesures, là, par les tarifs, c'est sûr qu'ils commencent à avoir une réponse.
Mais tu as quand même ses alliés politiques qui sont quand même à
côté. Ah non, mais il est populaire avec ça. Tête, ah oui, mais il a atteint le sommet de la popularité depuis...
Mais c'est très simpliste, tu sais. C'est comme dire, on va couper, on va éliminer l'assistance sociale, on va régler les problèmes de société. C'est pas de même ça marche. T'sais. C'est très, très, très simpliste comme réflexion au niveau économique. Ben, on va voir ce qui va arriver, mais selon moi, ça sera pas bien.
Merci, bonne journée. Salut, 7h23.